Pour ouvrir le bal, comme tous les soirs, Amélie Perrier. Là, bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce mercredi 18 septembre commence avec une jolie surprise littéraire.
François Sagan, demain en librairie, La Scandaleuse revient 15 ans après sa mort. Un roman posthume est publié, Les Quatre Coins du Cœur, c'est son titre. Nous avons pu le lire avant tout le monde, on vous le raconte ce soir. Elle manque encore de renommée, mais le gouvernement français a bien l'intention de mettre en avant 40 start-up, des entreprises prometteuses appelées à conquérir les nouvelles technologies mondiales. Un magistrat a-t-il le droit de s'engager dans une organisation militante? La question est posée pour Éric Alt, à l'origine des ennuis judiciaires de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. En Israël, les anti-Netanyahou se mobilisent contre un nouveau mandat du Premier ministre. Il n'a pas de majorité, son rival non plus. Les tractations s'annoncent rudes. Et une bonne nouvelle enfin, le diabète recule en France, peut-être grâce à nos meilleures habitudes sportives et alimentaires. Le soleil va briller demain encore, la météo complète à la fin de ce journal avec Élodie Calac.
À 18h15, un jour dans le monde avant l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est en Syrie que je veux vous emmener, qui est totalement sorti des radars. Le dernier bastion, c'est Idlib, rempli de civils, bombardés malgré la trêve, et on y vient tout de suite. Le bruit du monde est en Colombie ce soir, sur un tas d'ordures devenu un jardin. Et puis 19h20, le téléphone sonne, comment peut-on respirer en ville? Paris, vous le savez, a installé des capteurs désormais, donc vous savez presque en temps réel quel est le taux de pollution chez vous, dans votre quartier, d'accord? Mais après, arrose sur les voitures, est-ce qu'elles sont les seules responsables? Comment on se protège? Comment on fait dans les écoles, par exemple? Est-ce que je dois arrêter de prendre le métro? C'est la journée de la qualité de l'air. Spoiler, la qualité est pas bonne. 01 45 24 7000.
France Inter.
Rebonjour Tristesse, alors Françoise Sagan revient en librairie avec un roman inédit.
France Inter a pu découvrir l'ouvrage en avant-première. Ilana Amor-Youssef, chanceuse, vous l'avez lu, bonsoir.
Bonsoir.
Le titre c'est Les Quatre Coins du Cœur, ça paraît demain chez Plomb, un secret bien gardé jusqu'au dernier moment. Alors il y a ces personnages riches et insolents, un accident de voiture, de l'humour et un détachement très saganesque. Ilana, dites-nous d'abord d'où vient ce texte, pourquoi sort-il maintenant?
Eh bien imaginez Amélie, la pagaille invraisemblable qu'a dû être la succession de Françoise Sagan. Ses ennuis avec le fisc, ses biens saisis, une montagne de papiers et de manuscrits, et un fils, Denis Westhoff, faisant le tour des éditeurs pour que l'œuvre de sa mère continue à vivre. Au tout début, il n'a pas prêté attention à ce manuscrit, il n'a même pas compris tout de suite que c'était un roman. Puis il l'a fait lire à Jean-Marc Roberts, qui dirigeait à l'époque les éditions Stock. Avis négatif. Le manuscrit était inachevé, il y manquait des mots, des paragraphes n'étaient pas dans le bon ordre. Denis Westhoff se résout donc à ranger le texte au fond d'un tiroir, mais cette histoire a continué à le travailler, si bien qu'il a fini par le ressortir, il l'a présenté aux éditions Plomb, il l'a corrigé en prenant soin de ne toucher ni au style ni au ton du roman, écrit-il dans sa préface. C'est donc toujours un roman inachevé que l'on a entre les mains, mais dont le texte a été corrigé par Denis Westhoff.
Alors les admirateurs de l'écrivaine vont retrouver avec bonheur Sagan dès demain en librairie. Vous, Ilana, vous l'avez déjà lu. Dites-nous en plus, sans tout déflorer. Hein.
Alors c'est tout à fait du Sagan. On est dans une famille de la bourgeoisie industrielle de province. Le fils, Ludovic, victime d'un grave accident de voiture, est de retour après 2 ans d'hospitalisation peut-être abusive, pendant lesquelles il a été bourré de neuroleptiques. Il a changé, on le dit diminué mentalement, et la seule qui verra clair en lui est Fanny, sa belle-mère, la mère de son épouse, une femme libre, séduisante, belle, qui se moque des conventions bourgeoises. C'est un livre férocement anti-bourgeois, férocement drôle, un livre sensuel et amoureux, et c'est un peu comme si Mauriac s'était fait un rack de coke.
On rappelle que c'est interdit. Hein. Les Quatre Coins du Cœur, inédit de Françoise Sagan chez Plomb, ça paraît dès demain. Et le fils de Françoise Sagan, Denis Westhoff, sera l'invité de Léa Salamé demain à 7h50 sur France Inter.
Allez, un autre grand retour, c'est sûr, c'est moins glamour. C'est le retour de la taxe carbone.
En tout cas, une préconisation de la Cour des comptes. Selon elle, la France ne pourra pas éviter une hausse de la taxe carbone et son élargissement au secteur épargné jusqu'à présent. Les sages considèrent que cet outil permettra d'atteindre les objectifs environnementaux, mais le gouvernement est contre une augmentation, au moins jusqu'à l'année prochaine. Cette taxe, en fait, s'applique sur les carburants. Elle a été instaurée il y a 5 ans. Elle devait être revue à la hausse tous les ans, mais les gilets jaunes lui ont mis un coup d'arrêt. De la route au rail, une mauvaise nouvelle pour le constructeur de trains Alstom. La SNCF a préféré l'espagnol CAF pour commander ses 28 nouveaux trains. Ils rouleront sur les lignes intercités Paris Paris-Toulouse et Paris-Clermont. C'est un contrat à 700 millions d'euros. Un coup dur pour Alstom, mais voilà un coup de pouce pour 40 start-up françaises. Le gouvernement vient de dévoiler une liste de jeunes entreprises tricolores sur lesquelles il mise. Une première sélection annuelle. Bonsoir Manuel Ruffez.
Bonsoir.
Alors on l'appelle le Next 40, en référence au CAC 40, hein, pour ces entreprises appelées à devenir des leaders technologiques mondiaux. Si l'on connaît déjà Blablacar, hein, le covoiturage, Cityscoot, les scooters en libre-service, ou encore Deezer, le streaming musical, ce Next 40, Manuel, va mettre en lumière des startups encore peu connues.
Oui, et ça balaye tous les domaines. Les spécialistes, évidemment, les connaissent, mais peu le grand public. Par exemple, Alan, c'est français et c'est la première assurance santé européenne en ligne, première indépendante à obtenir un agrément depuis plus de 30 ans. L'éditeur de jeux vidéo pour smartphone, Voodoo, qui a fait une levée de fonds de plus de 170 millions d'euros auprès de la banque américaine Goldman Sachs. Mano Mano, une place de marché européenne leader dans le bricolage et le jardinage en ligne. Ou encore Insect, avec un Y qui élève et transforme des insectes, comme son nom l'indique, en nourriture pour animaux. Bref, un monde à découvrir, mais qui n'arrive pas jusqu'ici pour rien. Elles ont été sélectionnées, ces startups, parce qu'elles sont déjà valorisées à plus d'un milliard d'euros, parce qu'elles ont réalisé une levée de fonds supérieure à 100 millions, ou encore un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros. Et ce Next 40 sera comme un cocon pour elles, pour leur faciliter non seulement le financement, mais aussi toutes les démarches administratives. Et elles devraient créer à elles seules 25 000 emplois en France dans les prochains mois.
Manuel Ruffez, merci. Le funeste décompte à la prison de Metz, en Moselle. Deux détenus se sont pendus en l'espace de quelques jours dans leur cellule. Un troisième a tenté de mettre fin à ses jours. Selon l'Observatoire international des prisons, les personnes détenues se suicident 6 fois plus que la population générale. Un magistrat peut-il s'engager dans une association anticorruption? La question se pose à propos d'Éric Alt, vice-président d'Anticor. Il est convoqué demain par l'inspection générale de la justice. Éric Alt va devoir notamment clarifier sa position sur l'affaire des mutuelles de Bretagne, qui a valu une mise en examen à Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Il y aurait, selon les avocats de Richard Ferrand, un conflit d'intérêts. Katia Dubreuil, elle, soutient Éric Alt. Elle est la secrétaire générale du syndicat de la magistrature.
On a vraiment l'impression qu'on cherche des poux dans la tête d'Anticor et dans la tête d'un magistrat, dans notamment le cadre de l'affaire Ferrand, et que ce sont des poursuites qui sont éminemment politiques. Ce qui a posé une question juridique, c'est le fait qu'il soit aussi magistrat à Paris et qu'il ait signé effectivement une plainte avec constitution de partie civile pour le nom d'Anticor. Et la question, c'est qu'un juge parisien, d'instruction parisien, reçoive donc cette plainte des mains d'un autre magistrat de Paris. Mais Éric Alt n'a absolument rien à voir avec les fonctions pénales. Il n'en exerce pas à Paris. Il est juge civil. Les choses sont bien séparées, donc il n'y a pas de difficulté. Et en tout cas, évidemment, pas de question d'ordre déontologique par rapport au fait d'être allé signer cette plainte. Et le fait d'aller chercher un magistrat sur ce terrain-là, sur le terrain de la liberté d'expression et sur ses engagements, c'est quelque chose de parfaitement scandaleux.
Katia Dubreuil, du syndicat de la magistrature, soutient d'Éric Alt. Elle répondait à Laure de Beaulieu.
Il est 18h09 sur France Inter. Oui, pardon. Allez-y, Amélie Perrier.
Pas mieux qu'au printemps dernier, la situation politique est bloquée en Israël. Les résultats des législatives d'hier donnent quasiment autant de sièges à la Knesset au camp de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, qu'à son rival, Benny Gantz. Et surtout, aucun ne semble en mesure de former un gouvernement majoritaire avec ses alliés naturels. Les tractations s'annoncent longues et douloureuses pour parvenir à une coalition. Et le chef du gouvernement cristallise tous les blocages, comme a pu le constater notre envoyé spécial à Tel Aviv, Omar Waman.
Dans cette ville de Tel Aviv, Benjamin Netanyahou n'a jamais vraiment été populaire. La population jeune vote plutôt à gauche, comme Daniela, 24 ans, étudiante aux Beaux-Arts, qui se réjouit de voir l'actuel Premier ministre en difficulté.
C'est bien, je pense qu'il aurait déjà dû quitter le pouvoir. Il était obsédé par la sécurité. Il ne se préoccupait que des religieux ou de ses soutiens. Il doit s'occuper de tout le monde.
Ici, on s'est habitué à voir Netanyahou au pouvoir, comme inamovible. Lim, 27 ans, gérant d'un petit café dans le centre-ville.
En fait, j'étais surpris par ces élections. J'étais persuadé que Bibi allait être réélu facilement. C'est une grosse surprise. Il a divisé les gens, divisé le pays. Aujourd'hui, les gens se détestent. Ils se haïssent.
Et malgré cette politique sécuritaire clivante, Benjamin Netanyahou dispose de quelques soutiens dans cette ville balnéaire. Pierre, un retraité.
Nous faisons partie des 20% qui ont voté pour Bibi à Tel Aviv, oui. Là, pour cet épisode, crains que ce soit fini.
Et pourtant, Netanyahou a tout fait pour l'emporter. Une campagne d'une violence inouïe, des attaques anti-arabes ou contre les partis de gauche. Tel Aviv, Omar Waman, France Inter.
Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou annule son déplacement à l'Assemblée générale de l'ONU à New York à cause du contexte politique, dit-il. L'Arabie saoudite accuse clairement l'Iran d'être responsable de l'attaque de ses installations pétrolières le week-end dernier. Attaque revendiquée par les rebelles yéménites Houthis, soutenus par les Iraniens. Riyad affirme ce soir que les débris de drones et de missiles sont une preuve d'une agression iranienne. L'ONU envoie ses propres experts en Arabie saoudite. Et de son côté, l'Américain Donald Trump, également persuadé de la responsabilité des Iraniens, ordonne de renforcer les sanctions contre Téhéran. Les États-Unis, où la question des armes et des tueries de masse revient dans le débat. Pas à l'occasion d'un nouveau drame, mais avec une publicité particulièrement choc. Elle a été diffusée ce matin à la télévision, payée par une organisation en faveur d'un contrôle plus sévère des armes à feu. Une claque pour les téléspectateurs d'NBC ce matin. C'est la correspondance à Washington de Gregory Phillips.
Ça commence comme une publicité assez classique pour la rentrée scolaire. Cette année, ma mère m'a acheté le sac à dos parfait, dit ce collégien. Puis une autre élève. Ses classeurs m'aident à rester organisé. Un troisième, enfin, se met à courir dans les couloirs de son lycée. Ses baskets sont celles dont j'avais vraiment besoin pour la rentrée. Mais rapidement, le ton devient dramatique et on voit ces adolescents courir, se cacher, terroriser, alors qu'on entend de plus en plus présent des coups de feu. Pour la première fois, une publicité montre la réalité d'une fusillade en milieu scolaire, des élèves blessés et du sang. Le spot a été réalisé à la demande de l'association Sandy Hook Promise, créée par des parents endeuillés après la fusillade d'il y a 7 ans où 26 personnes, dont 20 élèves de cette école primaire, avaient été assassinées. Ces dernières semaines, les pros et anti-armes à feu dépensent des centaines de milliers de dollars en publicité pour mettre sur la table cette question à l'approche de la présidentielle. Mais ce spot est particulièrement glaçant. Il se termine par une jeune fille en pleurs et cachée qui dit « J'ai eu un nouveau téléphone portable pour rester en contact avec ma mère et on entend les pas du tireur s'approcher d'elle. » Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Allez, le sport, c'est ce soir d'abord une rencontre au sommet et une disparition annoncée.
La disparition d'abord de la Coupe de la Ligue. La LFP suspend la compétition la saison prochaine. Elle opposait les clubs professionnels depuis 25 ans, mais elle intéressait beaucoup moins ces derniers temps. L'appel d'offres des droits TV s'était révélé infructueux et les clubs se plaignaient de calendriers de matchs trop chargés. Le PSG, lui, espère bien ne pas disparaître trop tôt de la Ligue des Champions. Les Parisiens entament leur campagne européenne face à un très gros client ce soir, le Real Madrid. Coup d'envoi à 21h au Parc des Princes. Sans les pépites, Neymar est suspendu, Mbappé et Cavani sont blessés et forfaits. Terminons le journal par une bonne nouvelle du côté de la rubrique santé. Le diabète recule. Le nombre de nouveaux patients diagnostiqués a baissé entre 2010 et 2017. Et c'est peut-être grâce aux campagnes de prévention et aux meilleures habitudes de vie adoptées par les Français, du sport et une alimentation saine. Cela peut expliquer ces signes encourageants, nous dit le professeur Éric Renard, le chef du service de diabétologie au CHU de Montpellier.
On voit d'une manière générale qu'il y a davantage de prise en compte des conseils nutritionnels et de la lutte contre la sédentarité. Vous savez, tout ce qui est Nutri-Score, etc. On peut savoir avec des applications sur son téléphone si ce qu'on mange est trop gras, trop sucré, trop riche en calories. Ça rentre dans la société petit à petit. On sait que si on intervient sur le mode alimentaire et l'activité physique, on va retarder l'apparition du diabète. Alors c'est vrai que la glycémie à jeun, qui est le moyen de dépister communément le prédiabète, c'est rentré dans les mœurs, je dirais, dans les bilans de santé. C'est-à-dire que le cholestérol, avant on dosait le cholestérol, etc., ça faisait partie des choses qui étaient systématiques. La glycémie, ça l'était moins. Donc maintenant, si vous venez me voir en disant, voilà, il me faudra un bilan de santé. Si vous étiez venu il y a 10 ans ou 15 ans, on n'aurait peut-être pas dosé de la glycémie. Maintenant, on la dose.
Alors, moins de nouveaux cas, mais quand même toujours plus de diabétiques en France. Pourquoi ? Parce que la population vieillit ?
Absolument. C'est-à-dire que, en fait, les diabétiques aujourd'hui, ils ne vont pas mourir, ils font moins d'infarctus, ils font moins de problèmes. Et donc, il y a moins de nouveaux cas, mais au total, il y a plus de cas.
Le professeur Éric Renard avec Véronique Julia. Et plus de 3 millions de Français de plus de 45 ans souffrent de diabète en France aujourd'hui.
Eh bien voilà, merci beaucoup. beaucoup. Voilà pour le chiffre, j'allais dire ça. Et bien voilà les pauvres. Voilà pour le chiffre. Amélie Perrier, vous revenez tout à l'heure dans Un jour dans le monde. Ce soir, nous allons à Idlib, la dernière poche de résistance dans cette guerre en Syrie qui a fait un 500 000 de morts. Quelle situation là-bas et puis quel avenir surtout. Après, nous sommes également en Colombie sur un tas d'ordures devenu un jardin. Ça se passe à Medellin. Et puis je vous remets le téléphone sonne dans l'oreille en cette journée de la qualité de l'air. À Paris, on a mis des capteurs partout désormais, d'accord. Mais et sinon, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement quand le taux de particules fines est trop haut? On parle de quel danger? Si le métro c'est le pire, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que seules les grosses villes sont touchées? Est-ce que c'est seulement la voiture qui nous tue? Comment nous protéger? 01 45 24 7000. En attendant, dans le ciel.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Élodie Callac, une journée toujours bien ensoleillée au programme de demain.
Oui, du soleil quasiment partout, alors quelques bémols, tout de même un réveil gris sur le Pas-de-Calais, mais ça ne durera pas. Sur le sud de l'Aquitaine et de l'Occitanie, là, il faudra composer avec les nuages, quelques averses, parfois un orage sur le relief dans l'après-midi. Et puis des Alpes du Sud vers le Var, la Corse, quelques averses également, ça tournera à l'orage. On n'oublie pas le vent de nord-est, vous l'avez senti aujourd'hui sur les régions du nord, il était désagréable, ce sera pareil demain.
On l'a vraiment senti, allez, quelques degrés en moins aussi demain d'ailleurs.
Oui, seulement 5 degrés à Reims le matin, 7 à Lille, Nancy et Nevers, 10 à Lyon, 11 degrés à Paris, à Tours, 15 à Bordeaux, 17 pour Marseille, 20 pour Nice. Et puis l'après-midi, il fera 18 à 24 degrés au nord et 24 à 29 au sud, ça baisse un peu.
Élodie Callac de Météo France, merci. Élodie, à tout à l'heure, après 19h.